Donc bienvenue, merci d'être venu à cette première rencontre HF sur le cours musical. Et je vais laisser la parole à Blandine Pélissier, qui est une des fondatrices d'HF, qui va vous présenter l'association.
Oui, bonsoir. Alors d'abord, je voulais remercier Christine et la Java de nous accueillir ce soir. Le mouvement HF est né en Rhône-Alpes, en fait en 2008, à la suite de rapports qui ont été commandés par le ministère de la Culture à Rembrandt, donc on les appelle les rapports Rembrandt. Ce sont des rapports qui ont été commandés sur le spectacle vivant et qui ont fait état de disparités énormes entre le traitement des hommes et des femmes dans les milieux de la culture, enfin du spectacle vivant plus particulièrement, tant au poste à responsabilité que dans les programmations, les financements, etc. Donc HF Canal Historique est né en Rhône-Alpes. HF Île-de-France est né en novembre 2009. Et il y a maintenant une dizaine de collectifs ou associations HF sur le territoire. Voilà, donc nous avons fait beaucoup de lobbying. Nous avons obtenu par exemple qu'il y ait une référente égalité homme-femme, une haute fonctionnaire qui a été nommée au ministère de la Culture par le précédent gouvernement, mais qui reste en place, Nicole Pau. Nous faisons des actions de sensibilisation pour permettre à tout le monde de prendre un peu conscience des problèmes qu'il y a dans nos milieux. Et nous mettons en place actuellement, donc c'est HF Rhône-Alpes qui a commencé, une saison égalité pour l'Île-de-France et plusieurs autres régions, et on espère que ça sera au niveau national. Elle se prépare pour 2013-2014. Donc dans ces saisons égalité, les théâtres et structures partenaires s'engagent sur une période de 3 ans sur 3 axes. Premier axe, tendre vers l'égalité dans les programmations, les financements, les résidences d'artistes, etc. Deuxième axe, avoir une réflexion en interne sur leur mode de fonctionnement, mixité des équipes et égalité salariale. Et troisième axe, communiquer auprès de leur public. Voilà, donc en Île-de-France, nous avons déjà 17 théâtres partenaires. Voilà, donc comme on était à l'origine du mouvement très nombreuses à être dans le théâtre particulièrement et que nous voulons élargir à tous les arts, c'est une première. Nous avons invité des musiciennes à venir nous rejoindre pour créer un pôle musique autour de Natacha. Et nous allons bien sûr ensuite poursuivre en invitant les personnes de l'audiovisuel et du cinéma. Dans les tuyaux, ça ne saurait tarder. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée puis repasser la parole à Natacha.
Donc je me présente, Natacha Leroux, donc professeure au conservatoire de Pierrefitte-sur-Seine et à l'école de musique de Villetaneuse, chanteuse saxophoniste. J'ai à mes côtés Ondine Garcia, donc directrice de la fédération des grands orchestres. Tu me corriges un peu si je me trompe, les grands orchestres de jazz et des musiques improvisées. Ensuite, Bénédicte Briand-Froidure, directrice et programmatrice de la scène de musique actuelle Phil 7 en Seine-et-Marne. Et Kay Masséna, qui est donc auteure, compositrice, interprète, chanteuse, et également qui fait également de la recherche sur les femmes dans la musique. Donc j'ai tout d'abord, et malheureusement, je voulais aussi vous préciser que Laurence Equilé ne sera pas parmi nous. Elle est en résidence et donc elle s'excuse. Mais par contre, elle est membre d'honneur d'HF et soutient absolument le mouvement qui est en train de naître là, dans le monde de la culture. Donc je voulais d'abord introduire un petit peu cette rencontre par des chiffres pour un peu situer un petit peu la situation, faire un état des lieux. Je me suis beaucoup inspirée d'un livre très important qui s'appelle « Les musiciennes », écrit par Yacine Travé, qui est une chercheuse à Paris et qui a vraiment beaucoup, beaucoup défriché la question, auteur de plusieurs recherches, et notamment donc, de ce livre très récemment publié. Donc les métiers de la musique sont parmi, je ne sais pas si vous le savez, mais les moins féminisés des professions d'artistes. Donc il réside vraiment des inégalités de chance d'accès aux postes et aux fonctions les plus rémunérées. Même à situation en fait, d'emploi équivalent, les femmes sont en moyenne moins rémunérées que les hommes. les situations d'emploi, les déroulements de carrière, les discriminations vis-à-vis de l'âge, etc., sont très défavorables aux femmes, comme sûrement vous devez le savoir. L'univers musical témoigne vraiment d'un effet de discrimination purement liée au sexe de l'interprète. Donc il y opère une répartition en fait sexuée inégalitaire des fonctions entre hommes et femmes, tant en termes de pratique de tel ou tel instrument, hein, on verra qu'il y a une sexuation des instruments qui s'opère, que des postes ou des cadres d'emploi, c'est-à-dire du statut, etc. Donc outre dans les métiers de l'enseignement où elles sont très nombreuses, les professions musicales sont donc très peu féminisées. Il y a seulement 10,6% de compositrices déclarées, 24% de femmes parmi les musiciens interprètes, 24%. Et ces deux professions, c'est important de le dire, sont même les plus masculinisées des professions culturelles. Donc on est vraiment tout en bas de l'échelle de l'égalité professionnelle. On sait maintenant que paradoxalement la musique classique emploie plus de femmes que les musiques actuelles, et que particulièrement chez les instrumentistes, tandis que les musiques amplifiées, elles, emploient surtout des chanteuses. On sait aussi que que les femmes sont présentes à 44% parmi les interprètes de musique dite savante. On appellera musique savante les musiques écrites, hein, de tradition écrite, c'est-à-dire plutôt musique classique, tandis qu'elles sont que 17% des musiciens des musiques populaires, donc jazz, musique actuelle, électro, etc. 17% donc. D'une manière générale, les musiciennes se concentrent particulièrement dans les métiers du chant. Les femmes constituent 55% des chanteurs en musique savante et 58% pour les musiques populaires. D'ailleurs, entre parenthèses, il est assez intéressant de constater que, alors qu'elles sont souvent majoritaires à postuler dans les castings de chant en variété, par exemple, les émissions, souvent des émissions de télé comme la Starac et la Nouvelle Star, sélectionnent alternativement des hommes et des femmes. Donc, bon, ça c'est un exemple, mais c'est vrai que même dans la profession du chant, on constate que souvent, alors qu'elles sont beaucoup plus nombreuses à postuler, il y a souvent plus d'hommes qui arrivent dans la profession. Donc, l'un des secteurs musicaux où s'exerce le plus la ségrégation est le jazz. Les femmes n'y représentent que 8% des musiciens de jazz, et elles sont seulement 4% des instrumentistes. Donc il y a même des instruments dans le jazz qui sont très fermés aux femmes. Il y a moins de 2% de trombonistes, batteurs, guitaristes et trompettistes qui sont des femmes. Donc en gros, les femmes représentent moins de 2 musiciens professionnels sur 10. Et on sait que les musiciennes ont du mal à vivre de leur activité par manque de contrat et d'engagement. Par exemple, alors que 42% des hommes, je donne beaucoup de chiffres, mais c'est important parce que les chiffres sont très parlants et je pense qu'ils sont assez éloquents. 42% des hommes interprètes de musique de tradition écrite, donc dite savante, ont accès à un emploi stable, 42%. Ils sont permanents d'orchestre, enseignants en contrat à durée indéterminée ou même couverts par le statut de la fonction publique. Seulement 28% des femmes sont dans ce cas, hein, dans les musiques savantes. Dans la musique classique, il y a aussi beaucoup de problèmes d'accès aux postes de pouvoir tels que chef d'orchestre ou directeur de conservatoire. En France, les femmes représentent seulement 8% des 306 chefs d'orchestre intermittents, inscrits en 2006 à la Caisse des congés spectacles. Et les chefs femmes étant principalement en place sur la musique vocale, la musique contemporaine et les œuvres pour enfants. Dans les musiques populaires, c'est l'accès à l'intermittence indemnisée qui est plus fréquente chez les hommes. En plus, parmi les musiciens interprètes au cachet, les femmes disparaissent plus tôt que leurs collègues masculins du marché du travail. On constate qu'arrivé à un certain âge, il y a de moins en moins de femmes sur le marché du travail. On peut sans doute relier ça, évidemment, au rôle du visuel dans la construction de la musique, dans les musiques actuelles, évidemment, l'apparence corporelle, la jeunesse de la musicienne sont déterminants et influent en général beaucoup sur la longévité d'une carrière. Donc dans ces musiques, l'entrée des membres dans le groupe, enfin dans les musiques actuelles, repose essentiellement sur la cooptation. Ça c'est aussi ce qui aussi fait beaucoup de différence avec les musiques savantes. Et les voies d'accès au groupe de musique dans les musiques actuelles, c'est souvent marital ou filial. C'est beaucoup femme 2, copine 2, fille 2, sœur 2. Donc beaucoup entrent en tant que choriste ou bassiste, mais rarement, enfin plus rarement sur des postes sur d'autres instruments. Donc les musiciennes sont souvent très dépendantes du réseau professionnel de leurs conjoints musiciens, et plus particulièrement dans les musiques populaires. Nombre de femmes doivent multiplier encore plus que leurs confrères différentes activités professionnelles, même en dehors du champ artistique, pour pouvoir survivre. Et la maternité, évidemment, et la vie familiale et ses contraintes domestiques apparaissent aussi comme un frein à l'exercice de la profession de musicien. Donc, moi, je m'attarderai un petit peu là à l'enseignement, avant de parler d'autres choses, puisque bon, c'est plutôt ma profession. Donc, on sait qu'il y a une féminisation des pratiques culturelles en général en France. Les femmes et les filles pratiquent plus d'activités culturelles. Et en musique plus particulièrement, les études montrent qu'il y a une présence majoritaire des filles dans les écoles de musique. Alors qu'elles représentent 49% de la population de moins de 20 ans, elles comptent pour 55,2% des élèves en musique. Donc il y a une nette... disons qu'elles sont majoritaires dans les écoles de musique, mais en revanche, elles ne sont que 57% dans les écoles... elles sont 57% dans les écoles municipales, mais elles ne sont plus que 44% dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse. Donc là, il y a une hémorragie qui s'opère, qu'on devra essayer de comprendre, évidemment. On peut aussi noter que lorsque les femmes et les filles pratiquent un instrument, elles suivent plus souvent des cours que les hommes, et ça c'est très important parce qu'on a constaté que beaucoup de musiciennes de jazz, contrairement aux musiciens de jazz, avaient suivi beaucoup de cours, beaucoup plus de cours en fait. Elles étaient beaucoup plus avides et gourmandes d'enseignement en fait, et que c'était peut-être aussi une des voies de professionnalisation pour les femmes, c'était rester quand même l'enseignement et les écoles. Donc 96% des musiciens interprètes professionnels ont suivi une formation dans le cadre d'une structure contrôlée par l'État. Ça c'est aussi important, 96% donc, des musiciennes ont suivi une formation. 96% des interprètes de musique savante et 54% des interprètes de musique dite populaire. Donc on voit que vraiment les musiciennes qui ont suivi des cours et qui ont suivi un cursus d'enseignement sont quand même plus favorisées dans l'accès à la professionnalisation. Donc la manière dont se déroule l'apprentissage musical en France semble fondamentale quand même dans la présence des femmes ensuite dans la profession de musicienne. Et on note une nette différence avec les pays anglo-saxons. Alors, Yassin Travé notamment expliquait que ça résidait peut-être aussi dans la mesure où il y avait un apprentissage de la musique qui était beaucoup plus implanté dans les écoles et les universités. Donc avec une proximité à l'enseignement musical beaucoup plus proche. Et que l'enseignement en Allemagne et en France était encore très élitiste, était concentré dans des écoles qui appliquaient un petit peu les mêmes stratégies que les hautes études, que les hautes écoles, avec tout son lot de discrimination, etc. Donc les conservatoires et les écoles de musique favorisent cet élitisme-là et donc entraîneraient un processus de discrimination sexiste. Il en reste tout de même que le mode d'apprentissage en école reste quand même le plus favorable à l'accès des femmes à la profession que le mode d'apprentissage des musiciens dits autodidactes, parce que dans l'apprentissage autodidacte, il y a tout un tas de codes implicites de professionnalisation, des formes de socialisation très excluantes où bon, je t'apprends un plan à la guitare, mais en échange, on va voir des choses, une manière d'apprendre qui entraîne aussi qui est moins simple dans la relation homme-femme. Alors, on peut aussi noter qu'il y a une distribution sexuelle des instruments. Ce qui dit distribution sexuelle, c'est-à-dire que certains instruments sont joués plus particulièrement par les filles. On oriente aussi plus particulièrement les filles dans les écoles sur certains instruments plus que sur d'autres. Donc, la sexuation des instruments dans l'imaginaire collectif joue contre l'apprentissage de certains instruments. Le choix d'instruments convoque des représentations sociales et sexuées de la communauté éducative, donc parents et enseignants. Et on s'aperçoit que justement le moment où la petite fille apprend un instrument, c'est un moment décisif aussi dans l'incorporation de normes et on s'autorise ou pas à jouer tel et tel instrument. En 2008-2009, les départements des Vents, par exemple, sont très largement masculinisés. On note que les instruments sont en grande majorité enseignés par des hommes, également dans les écoles, hormis la flûte à bec et la flûte traversière enseignées surtout par des femmes. Des hommes sont les deux tiers à enseigner les bois, 90% des cuivres, et 3 fois sur 4, ce sont des hommes qui enseignent la guitare et la contrebasse. Donc les cordes sont enseignées par contre majoritairement par des femmes, ainsi que le piano et la harpe à 90%. Le jazz, les musiques actuelles et les percussions sont des départements aussi très masculinisés. Et fait plus grave, on pourrait dire, c'est que souvent dans les pratiques collectives, moi j'ai vu ça hein, dans les conservatoires, dans les pratiques collectives en musique actuelle, par exemple, ou jazz, des petites filles qui en fait font l'apprentissage d'un instrument sont reléguées dans les pratiques collectives au chant. C'est-à-dire qu'une petite fille qui joue du piano, on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup en pratique collective, elle va se retrouver à chanter alors qu'elle apprend le piano. Donc tout un tas de choses comme ça qui excluent les femmes et les filles de certains instruments et de la pratique instrumentale. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que dans l'Antiquité, il y a eu sûrement une régression parce que dans l'Antiquité, les femmes étaient très nombreuses à jouer d'un instrument de musique. Donc bon, on peut se questionner. Alors sinon, concernant les enseignantes, on a vu qu'il y avait énormément d'enseignantes, de musiciennes enseignantes et très peu, beaucoup moins de professionnels instrumentistes. Donc les femmes forment la grande majorité des élèves des structures de formation supérieure réservées aux métiers d'enseignement. Elles sont donc 65% au CFEDEM, dans les centres de formation supérieure, 65% au CFEDEM, donc, et dans les centres de formation supérieure pour enseignants. Mais elles sont très nettement plus nombreuses à jouer d'un instrument dans les écoles, mais elles seront ensuite absentes au plus haut niveau de l'enseignement. Par exemple, dans les postes, en poste dans les établissements, leur présence varie fortement selon le type de structure. Elles sont de moins en moins représentées parmi les professeurs à mesure que l'on grimpe dans les échelons de la pyramide pédagogique. L'organisation pyramidale de l'enseignement, la réputation des établissements, leur visée professionnalisante et le type de métier préparé déterminent la présence plus ou moins affirmée des femmes. Les anciennes diplômées des conservatoires supérieurs devenues enseignantes exercent moins souvent que leurs collègues hommes dans un conservatoire du plus haut niveau. Et la direction des écoles de musique, ça c'est quand même assez affligeant, la direction des écoles de musique contrôlée par le ministère de la Culture est aussi essentiellement confiée à des hommes. Il y a seulement 7% de femmes sur les 128 directeurs de conservatoires nationaux de régions et départementaux. Ensuite, je terminerai sur les concours. Donc les critères d'évaluation, évidemment, sur les concours se différencient vraiment selon le sexe de l'interprète. Ceux qui disposent, souvent les jurys sont composés à majorité d'hommes et privilégient souvent des candidats masculins. Et souvent les femmes sont jugées sur des critères plus stricts que leurs collègues masculins et aussi sur des critères plus nombreux. On va s'intéresser, outre leur virtuosité, on s'occupera de leur physique, de la manière dont elles sont habillées, de comment elles sont, si elles sont sympathiques ou pas. Oui, alors ça, c'est tout ça, c'est des éléments qui sont le fruit des recherches de Yacine Travé, de recherches universitaires sur des enquêtes qui ont été faites auprès de musiciens, de musiciennes dans les écoles, etc. Donc voilà, donc c'était pour dresser un petit peu un rapide tableau, un petit peu malheureusement un petit peu tragique, on va dire, de notre profession. Et je voudrais donc enchaîner un petit peu en là cette fois par un pas par un comment dirais-je. Plus par un question-réponse, enfin un échange comme ça, un petit peu à bâton rompu, avec nos intervenantes. Et je voulais commencer avec Bénédicte Briand-Froidure, donc, qui est directrice et programmatrice de la scène musique actuelle FILSET, et qui est aussi auteur du master Direction de projet culturel qu'elle a écrit en 2010-2011 à l'Institut des politiques culturelles. Donc, musique actuelle, les femmes sont-elles des hommes comme les autres? Donc, en fait, j'aimerais bien que, Bénédicte, tu nous parles un petit peu plus des professionnels du secteur de la musique actuelle que tu connais. Tu as étudié les programmations de SMAC, de scènes de musique actuelle, étudié la constitution des groupes qui sont programmés dans ces salles. Enfin, nous éclairer un peu sur les processus de ségrégation et de discrimination horizontale, verticale qui s'y opèrent.
Je pense que je ne vais pas forcément... beaucoup plus heureuse puisque je pense qu'on va aller un peu dans le même sens de ce qui a été exposé jusqu'à présent. Donc effectivement, j'ai suivi pendant 2 ans le master de l'Observatoire des politiques culturelles à Grenoble dans le cadre duquel j'ai fait ce mémoire. Juste très rapidement pour vous dire de quel point de vue j'ai travaillé. Voilà, je travaille dans la musique depuis maintenant une quinzaine d'années, au départ une carrière de programmatrice. Je dirigeais un petit lieu de musique actuelle à Roubaix qui s'appelle la Cave aux Poètes, que j'ai quitté au mois de mai pour devenir la directrice de FILSET, qui est un lieu plus conséquent, scène de musique actuelle labellisée. Effectivement, dans mon parcours professionnel, j'ai été très tôt surprise, on va dire atterrie, du peu de femmes qui étaient représentées sur scène. Et la question qui se posait régulièrement à moi, c'était qu'est-ce qu'on fait au point de vue de la création pour faire en sorte qu'il y ait un peu plus de femmes sur scène ? Qu'est-ce qu'on fait pour, en termes de représentation pour ce public qui est extrêmement mixte dans les salles de musique actuelles ? On est à peu près 50% de public féminin, 50% de public masculin, pour faire que potentiellement ces jeunes musiciennes qui sont dans la salle imaginent que c'est possible pour elles d'avoir une carrière professionnelle aujourd'hui, puisqu'on a vu que les écoles de musique étant très largement féminisées, il y a une grosse pratique amateur chez les jeunes filles. Alors j'ai pas imaginé qu'avec ce travail j'allais bouleverser les choses. En tout cas, il y avait très très peu de choses qui étaient écrites et très peu de travaux de recherche qui avaient été faits, encore plus dans les musiques actuelles, j'ai envie de dire, que finalement peut-être dans le jazz, même si le jazz fait partie des musiques actuelles, et dans le classique. Donc lorsque j'ai fait ce master, c'est un travail de recherche, donc j'ai travaillé sur trois structures labellisées. Une à Rennes qui s'appelle l'UBU, qui est aussi la salle dirigée, co-dirigée par l'équipe des Transmusicales de Rennes. J'ai travaillé sur une SMAC qui s'appelle le Grand Mix à Tourcoing, et une troisième salle qui s'appelle l'Épicerie Moderne à Fézin. D'un côté, j'ai décortiqué l'ensemble des programmations de ces lieux-là pour voir un peu comment étaient composés les groupes professionnels qui étaient programmés dans ces lieux. Donc le constat rejoint à peu près celui que nous expliquait tout à l'heure Natacha, puisqu'effectivement on voit qu'il y a un petit peu moins de 10% de femmes dans la composition des groupes programmés au sein des scènes de musique actuelles. De la même manière, les transmusicales avaient fait aussi une étude sur la programmation de plusieurs années et avaient fait exactement le même constat. Il y avait autour de 10% de femmes dans la composition des groupes programmés aux transmusicales. Mais je me suis également attachée à travailler sur l'ensemble des organigrammes des lieux adhérents à la Fée du Rock, donc Fée du Rock, Fédération des scènes de musique actuelle. Aujourd'hui, il y a eu un peu plus d'une centaine d'adhérents et j'ai décortiqué l'ensemble des organigrammes pour voir comment étaient composées les équipes. Une fois encore, le constat est exactement le même, puisqu'on est à peine 20% de directrices de scènes de musique actuelle, labellisées ou pas, puisqu'on n'est pas que des SMAC au sein de la Fée du Rock. Donc voilà, aux hommes les postes de direction, les postes de représentation, aux hommes aussi les fonctions de programmateurs, puisque le chiffre est exactement le même, il y a 80% de programmateurs hommes au sein des scènes de musique actuelle en France. Et évidemment, on se rend compte que les N-1, donc les postes d'administration, qui sont des postes très complexes avec des très grandes responsabilités dans nos structures, sont des postes qui sont plus volontiers dévolus aux femmes, où là on est à 65% d'administratrices au sein de ces établissements-là. Donc on voit bien que les femmes revêtent une fois de plus la fonction de bonne gardienne de la maison, tenue des comptes et gestionnaire de ces établissements. Quand on examine les postes de chargée de l'accompagnement, donc c'est généralement les personnes au sein de ces établissements qui gèrent la pratique amateur, accompagne la professionnalisation des artistes. Même constat, 86% d'hommes, et les chargés de l'action culturelle, donc sensibilisation des publics aux musiques actuelles, sont des postes essentiellement féminins, puisqu'on est à 64% de femmes au sein de ces postes-là. Alors là, je mets quand même un petit bémol, c'est des postes qui ont été créés dans ces lieux-là depuis une petite dizaine d'années, c'est une discipline qui est encore relativement jeune au sein de nos établissements. On se rend compte qu'il y a quand même 36% d'hommes, donc c'est quand même pas si mal non plus. Et on peut imaginer que c'est aussi parce que c'est des postes un peu plus récents, avec des gens qui ont suivi souvent des formations assez diplômantes. Donc on peut se dire qu'il y a quand même une tendance qui est aussi en train quand même d'évoluer, si on regarde le bon espoir, mais je pense que c'est quand même extrêmement important. Donc évidemment, poste de communication à 61% féminin. Mais bon, à presque 40% masculin aussi. Donc là même, on pourrait imaginer que dans quelques années, la tendance s'équilibre petit à petit. Je pense que ce qui est important de garder en tête, c'est qu'on n'a aucune vision historique en fait, des évolutions de ce, de ces chiffres-là. Et ça, je pense que c'est relativement dommage. Et l'idée de ce travail était justement, à un moment donné, de poser un peu une cartographie et de regarder où est-ce qu'on en était à un instant T. Et je pense qu'il sera nécessaire, d'ici quelques années, de voir comment les tendances évoluent, ou en tout cas comment on peut les faire évoluer. Et je pense que c'est un peu l'objet de la rencontre de ce soir. Je vous épargne les chiffres à la technique, puisque là, c'est complètement affligeant. On est évidemment à 97% de directeur technique ou régisseur principal au sein de ces établissements. Natacha a évoqué tout à l'heure la question de la ségrégation horizontale et de la ségrégation verticale. Donc la ségrégation horizontale, c'est ce que Ren Pratt a très bien décrit dans ses travaux. C'est l'effet du plafond de verre, hein, qu'on retrouve aussi dans nos établissements, puisqu'on se rend compte que potentiellement, ces 64% d'administratrices qui sont les N-2 devraient, au bout de quelques années, pouvoir accéder à ces postes à responsabilité. On n'en est pas tout à fait encore là, puisqu'on est à peine 20% de directrices au sein des SMAC. Et la ségrégation horizontale, verticale, voilà, c'est celle qui vise à vraiment, comme tu le déterminais tout à l'heure, sexuer aussi le rôle des femmes musiciennes qui sont en musique actuelle essentiellement des chanteuses. Donc on retrouve exactement les mêmes tendances que tu décrivais. Voilà.
Et tu parlais aussi de la place des filles et des femmes dans les studios de répétition et toutes ces fonctions aussi qu'on les SMAC sont censées avoir en tout cas.
Ouais, bah c'est vrai que quand je suis arrivée à Fixette, il y a deux studios de répétition avec un volet sur la pratique amateur qui est assez développé. Une des premières questions que j'ai posées à l'équipe en place, c'était voilà combien de filles fréquentent aujourd'hui les studios, puisque on est à des studios qui fonctionnent du lundi au dimanche, 7 jours sur 7, avec un taux de remplissage à quasi 97%. Donc il y a une vraie demande et un vrai besoin. En revanche, il n'y a absolument aucune fille qui fréquente les studios. J'ai pas d'explication.
Et concernant les résidences et l'accompagnement?
Alors concernant l'accompagnement, Fixette a travaillé beaucoup avec des groupes où effectivement le champ lead était dédié à des femmes, mais de la même manière que les groupes sont essentiellement composés d'hommes aujourd'hui, on retrouve ce trait de caractère-là au sein des groupes qui sont accompagnés. De fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Moins on travaille au niveau de la création et de l'accompagnement d'artistes à favoriser les artistes féminines, moins on les retrouve au niveau professionnel sur les scènes dans nos lieux.
Et on parlait aussi de la légitimité à être aussi à diriger ce genre de structure et comment c'est difficile aussi de s'autoriser à diriger ce type de structure quand on est une femme.
Bah, je pense que la question de la représentation et du modèle, elle est vraiment prégnante dans notre secteur, parce qu'effectivement, quand moi je suis arrivée dans ce secteur-là, il y avait vraiment deux voire trois figures très très emblématiques, deux ou trois figures féminines très emblématiques de la direction de lieu, qui sont notamment Béatrice Massé, co-directrice des Transmusicales de Rennes, qui est quelqu'un qui a 55 ans à peu près aujourd'hui, qui est dans le secteur depuis quasi une trentaine d'années, et Isabelle Chêne, qui est la directrice de l'autre canal à Nancy. Voilà, je suis en mesure de vous en citer deux, et je crois que c'est très important cette filiation aussi, et de se dire que c'est aussi possible pour une femme, et qu'elle est légitime aussi, elle a la légitimité à accéder à ces postes-là. Le problème étant entier, quand on sait que les conseillers d'administration de nos structures sont essentiellement masculin, et quand on sait qu'en plus du recrutement, c'est essentiellement des hommes qui postulent au poste de direction, et ça je pense qu'on doit aussi nous en tant que femmes s'interroger sur ce qui est du domaine du possible et ce qu'on s'autorise à faire. La légitimité, oui, elle est entière.
Merci. Alors je voulais aussi interroger Kemasena donc sur une chose auquel ça lui tient à cœur. Enfin c'est effectivement on constate qu'il y a vraiment des difficultés de professionnalisation pour les musiciennes et on a envie de dire bon il faut que ça change, il faut qu'on incite les pouvoirs publics à prendre des mesures incitatives pour qu'il y ait plus d'égalité de parité. Mais en attendant, nous, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour vivre
les contrats n'arrivent pas et quelles stratégies on peut mettre en place pour travailler tout simplement. Et on constate que dans d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons, des musiciennes ont décidé de trouver une alternative à ça, c'est-à-dire créer leurs propres moyens de diffusion, de production, de distribution, etc., leurs propres outils de travail. Et Kay va nous parler un peu de son expérience et de sa connaissance en fait du women's music aux États-Unis, ce qu'elle essaie d'appliquer aussi un peu en France dans son groupe Keepers of K, donc un collectif de musiciennes qui à la fois chantent ensemble, composent et s'entraident et sont solidaires. Donc c'est aussi un exemple comme ça de comment des musiciennes peuvent aussi entre elles s'aider à se professionnaliser et à travailler.
Merci. oui, en fait, donc, effectivement, je pense que, juste pour rebondir un tout petit peu sur les deux interventions qu'il y a eu avant moi, c'est vrai que ce travail qu'a pu faire Yassine Travet, le travail qu'entreprend HF, et bien sûr, le travail qui a été entrepris à la fois sur le terrain et puis par cette recherche, ça me tient énormément à cœur parce que c'est vrai qu'en tant que musicienne, j'ai été confrontée à toutes ces choses-là, mais vraiment dans mon parcours. Je me suis vue, je disais tout à l'heure à Andine, que je me suis vue dire par un directeur d'une grande institution au moment où je passais un oral. De toute façon, les femmes n'avaient pas envie de ces carrières. J'ai pas eu besoin, d'attendre le résultat de cet examen-là, puisque je savais déjà que, a priori, mon examinateur pensait que j'avais pas envie de réussir cet examen, puisque j'étais une femme. C'est des choses très concrètes pour nous et pour nos parcours. Et c'est vrai qu'en tant que musicienne, ce type de rencontre, en fait, a fait naître une colère, une révolte, en fait, par rapport à ces choses-là. Et donc, j'ai entrepris, en parallèle, en fait, à mon parcours de musicienne, un travail à la fois intellectuel et puis aussi au sein de la communauté dans laquelle j'évoluais de musicienne. De musiciennes, on a entrepris en fait de monter un collectif que certaines de vous connaissent peut-être, qui s'appelle le collectif Kaona. Et en fait, c'était inspiré par d'autres initiatives qui sont pas forcément toujours bien connues ici. Et c'est de ces initiatives-là dont je voulais vous parler aujourd'hui. Dans les mots de Cynthia Hou. Excusez-moi, je suis désolée. C'est vraiment, vraiment très nul.
C'est un interlude musical.
Dans les mots de Cynthia Hou, qui est une musicologue américaine, c'est un mouvement qui s'est creusé un passage étroit au cœur du sexisme de la musique populaire américaine des années 70, en fait, qui est née de plusieurs frustrations, en fait, à la fois les musiciennes du groupe Sweet Honey and the Rock, qui est un groupe de musiciennes afro-américaines qui est aujourd'hui très connu, puisqu'elles ont eu une carrière sur une trentaine d'années, avec une grosse discographie, qui est un groupe très emblématique à la fois dans la musique afro-américaine, en particulier gospel, mais dans les milieux justement de musique de ce mouvement en fait. Donc des musiciennes comme elle, les musiciennes qui faisaient partie du mouvement féministe, mais qui étaient lesbiennes et qui ont fait un petit peu partie de la scission du mouvement féministe à ce moment-là. Et puis, toutes les musiciennes qui s'engageaient dans ce mouvement anti-guerre, avec tous les musiciens qu'on connaît très bien, que l'histoire a bien gardé, voilà, de l'époque, et qui, pour le coup, se voyaient rejetées finalement parce qu'elles étaient des femmes et qui n'avaient pas droit finalement à la scène autant que les hommes. Et en fait, elles sont toutes regroupées et elles ont formé une économie parallèle, donc avec plusieurs labels, enfin au départ un et puis plusieurs qui ont évolué sur le temps. Et l'un des passions en fait de cette économie est le Michigan Women Festival, que certaines d'entre vous connaissent peut-être. Donc en fait, c'est intéressant de se pencher sur cette histoire qui est toujours d'actualité, puisque c'est une possibilité en fait de réponse à ces chiffres un peu accablants. La question des collectifs, la question des actions collectives, la question de ce qu'on fait ce soir. Je ne vais pas non plus m'étendre sur le mouvement. Si vous avez des questions, il n'y a aucun souci, je peux y répondre.
C'est pour la petite anecdote, il y a très peu de gens qui savent, mais en 1904, il y avait une union des femmes professeurs de musique et compositeurs de musique. Et en 1910, écoutez bien, l'Union des femmes artistes musiciennes comptait 1200 membres. Elles avaient même un café où elles se retrouvaient, se tenaient les unes les autres au courant de leurs contrats respectifs. Et il y avait même des imprésaries qui s'occupaient de placer leur orchestre. Donc on se rend compte que là, en début du siècle, il y a des unions de musiciennes, des groupes de musiciennes qui sont... Et puis là, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Voilà, donc c'est aussi ça, l'idée, c'est vraiment comment, à un moment donné, essayer d'œuvrer pour que ça change d'une manière ou d'une autre, alors autant au niveau institutionnel que aussi dans les réseaux, c'est-à-dire faire du réseau de la même manière que les hommes créent du réseau aussi, ça se dit sans animosité, hein, mais c'est vrai que le milieu, le monde musical est un milieu où les choses fonctionnent beaucoup en réseau, par cooptation, par plan, et que c'est important aussi de développer un réseau de musiciennes qui peut aussi influer aussi un petit peu, insuffler un petit peu un peu plus d'égalité dans ce secteur.
Voilà, tout à fait.
Et je voudrais aussi maintenant interroger Ondine Garcia sur les témoignages, parce que c'est intéressant que du coup, elle est donc directrice de la Fédération des grands orchestres, donc en contact avec tous ces grands musiciens de jazz encensés par les critiques et les festivals internationaux. Et elle a voulu les interroger un petit peu sur l'absence des femmes dans le jazz. Et là, c'est... Voilà, bon, on va l'écouter.
Je suis déléguée générale.
Ah oui, déléguée générale, pardon.
On va se poser la question, pourquoi je ne suis pas directrice?
Oui,
on pourrait se la poser. Hein. J'étais assez... quand je suis rentrée dans Grand Format, j'étais assez fière qu'ils aient embauché une jeune femme pour s'en occuper. Puisque la plupart des réunions auxquelles j'assiste sont des réunions entre fédérations où les hommes sont très 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 majoritaires, voire parfois je suis la seule femme autour de la table. Avec parfois des questions qui sont un peu désagréables. Nous avons été surnommées dans une réunion au ministère de la Culture sur le jazz. Il y avait donc la présidente, parce qu'il y avait une présidente de la Fédération des scènes de jazz, et moi-même nous avons été surnommées les passionnariats du jazz. Sympathique. J'ai fait une petite étude là pour regarder qui était, combien nous avions de musiciennes parmi les musiciens de grand format, donc aujourd'hui 32 orchestres, 420 musiciens, dont 36 musiciennes, c'est-à-dire 9%, 14 orchestres ne comportent aucune musicienne, et l'orchestre qui comporte le plus de musiciennes, ce sont les voice messengers, donc un orchestre local, et ça n'est même pas la moitié de l'orchestre, puisque c'est 4 musiciennes sur 11. Évidemment, la répartition en termes d'instruments est assez classique. Hein. Sur les 36 musiciennes, il y en a 16 qui sont chanteuses, donc solistes ou choristes. Beaucoup d'instruments devant. Et quand on descend, on a quand même 3 cuivres et une percussionniste. Et nous avons une chef, une compositrice, Sylvia Versini. Voilà. Alors, quand on leur demande pourquoi il n'y a pas de musiciennes dans leurs orchestres, on a un discours qui, là, pour le coup, est beaucoup moins progressiste que celui pour embaucher une délégué générale, pas directrice. très classique, hein, malheureusement. Ah oui, mais tu comprends, moi, mes mecs, Raem, c'est des musiciens de jazz, quoi, tu vois. Si je mets une fille, ils vont plus penser à travailler, ils vont penser qu'elle a regardé. Et alors, quand on dit oui, mais elles sont. C'est une catastrophe. Oui, mais elles sont. Ah oui, mais elles sont, c'est pas pareil. Elle a un mec, voilà. Donc, grosso modo, effectivement, on a le droit d'être musicienne quand on a son mec dans l'orchestre, ou quand on sait qu'effectivement, il n'est pas très loin, quoi. Et donc, quand on discute comme ça, on ne peut plus dire « Ah si, je sais, il y a un orchestre de musiciennes, il n'y a que des musiciennes dans l'orchestre, c'est au Japon, et là, elles jouent toutes nues !» Voilà, donc c'est assez catastrophique, on a arrêté la discussion là, parce que bon, voilà. Mais en même temps, ça peut être des gens qui sont assez progressistes dans leur pensée, et qui ne voient pas d'inconvénients, sauf qu'effectivement, dans les faits, c'est super, mais c'est pas possible chez eux. Ou alors ils répondent oui, mais si, j'en ai une remplaçante. Oui, d'accord. S'il faut attendre que le titulaire soit malade ou absent pour pouvoir jouer, ça laisse pas beaucoup d'occasions quand même. Donc, bon, voilà. Pas mieux faire. Alors, moi, j'espérais. Et puis, le dernier argument, évidemment, c'est oui, mais ça vient. Ce sont plutôt les orchestres confirmés où il y a moins de musiciennes. Chez les jeunes, il y en a. Alors, c'est vrai que chez certains orchestres, je pense notamment sur Natural Orchestra ou des orchestres avec des jeunes musiciens, il y a plus de musiciennes. Mais en même temps, je regardais la dernière promotion du CNR, du département jazz du CNR de Paris. Sur 18 étudiants, il y avait 3 musiciennes, donc ça vient doucement quand même. Hein. Bon, voilà, moi je me pose, peut-être que ça va être la suite du débat, la question du finalement c'est toujours la question du rapport au pouvoir, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup, comment ça se divise effectivement, par exemple dans les fédérations, hein, la plupart des présidents sont des hommes, hein, avec à l'exception de la FSJ, et la plupart des directrices, coordinatrices, etc. sont des femmes. Donc comment on peut essayer de faire en sorte que cette répartition des tâches, qu'on bouge un petit peu les lignes. Alors moi je crois beaucoup à la jeune génération, j'espère que ça va bouger. J'ai l'impression qu'il y a une façon il y a un rapport au pouvoir et à la façon de partager les choses qui est beaucoup plus collectif, qui est beaucoup plus tolérant. C'est peut-être quand on n'a pas de pouvoir qu'on accepte de le partager, et peut-être que quand on vieillit et qu'on en a, on est peut-être moins tenté de le faire. Mais bon, voilà, c'est mon espoir pour l'avenir.
Donc voilà, on peut conclure qu'il faut beaucoup de courage pour les musiciens, beaucoup de narcissisme, beaucoup de volonté, beaucoup de confiance en soi, beaucoup de réseau aussi. Et qu'il y a vraiment des réticences en fait cachées chez les musiciens à jouer avec les musiciennes, et il y a aussi des résistances que les musiciennes se mettent à réussir, à entreprendre ou à postuler, si elles ne sont pas musiciennes, à postuler pour des emplois de direction ou des emplois déterminants, des emplois aussi qui payent, aussi il faut le dire. Donc il faut, comme s'il fallait sans cesse se prouver à soi-même qu'on est légitime dans le monde musical ou légitime dans sa fonction de directeur, programmateur, directrice, programmatrice ou technicienne son, etc. Donc voilà, donc moi on aimerait donc vous donner la parole pour que vous nous parliez un petit peu de vos expériences, voilà, pour vous poser des questions.
Parce que je suis pas sûre de pouvoir rester jusqu'à la fin. Alors moi je suis Laure Berlioz et je dirige le centre de documentation de la musique contemporaine, et donc dans un domaine très spécialisé de la musique, création musicale classique. Et en fait je suis arrivée dans ce poste juste au moment où Renpra faisait son étude, et du coup j'ai tout de suite voulu faire des statistiques sur ce qui se passait pour les compositeurs, et donc la situation constat exactement le même dans le domaine des compositeurs, puisqu'on a vu sur le catalogue de notre centre où on a 1100 compositeurs qui sont actifs en France, on a 10% de femmes compositeurs. Voilà, donc le constat est un peu le même dans ce secteur d'activité. Alors il y a un des aspects de notre activité qui est de faire des rencontres une fois par mois à peu près sur une thématique ou sur un compositeur. Et on a eu l'occasion d'avoir des compositrices qui nous ont dit on aimerait bien faire une action groupée. Alors on s'est dit pourquoi pas. Donc l'année dernière, on a fait une rencontre comme ça avec trois femmes compositrices. Et il y avait Yacine Razet d'ailleurs, donc c'était très bien parce que enfin, je pense qu'il faut la mettre à contribution parce qu'elle est très
pédagogue.
Elle
est là d'ailleurs. Yacine Razet, elle est là. Non, dans la salle, elle devait venir.
Parce qu'en fait, elle communique très bien en plus de manière très. Enfin, elle a tout un discours qu'elle accompagne, elle s'énerve la mère, enfin, c'est très important. Et en fait, du coup, on s'est dit que, comme on a cette activité qui est un peu notre vitrine, d'avoir des rencontres, on s'est dit, bah, et là, comment ça se passe finalement pour, et on s'est rendu compte, en fait, qu'on programmait beaucoup de sujets masculins et que les intervenants étaient aussi beaucoup d'hommes, les modérateurs étaient beaucoup d'hommes, et donc on s'est dit qu'il fallait maintenant avoir un regard là-dessus. Mais d'inverser la vapeur, c'est pas très facile, parce qu'en fait, on a traditionnellement beaucoup de musicologues, beaucoup de journalistes qui sont toujours des hommes. Donc en fait, on s'est dit que chaque fois qu'on montait un projet, maintenant, on posait cette question-là. Alors moi, simplement, ce qui me paraît important, c'est que... mais il y a peut-être une étape dans tout ce travail qui est naturelle, c'est donner la parole aux femmes et leur permettre de s'exprimer et de faire du réseau, parce qu'en effet, il y a vraiment beaucoup de progrès à faire. Mais moi, je pense que c'est important de le faire dans une idée de mixité. Et donc, je ne suis pas, moi, pour un plateau que de femmes. Je pense que, justement, il faut montrer qu'on est pour la mixité et qu'on ne va pas faire des opérations que pour les femmes compositeurs. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment à chaque fois se poser la question et puis inverser peut-être les proportions. Et alors j'étais contente quand je suis arrivée de voir qu'elle faisait l'inscription, parce que je me suis dit, bah, c'est quand même important qu'il y ait des échanges et que ce soit un lieu de mixité et d'échange et pas seulement d'une action, je ne sais pas comment on dit, mais séparatrice. Quoi. Et je pense que le but, c'est vraiment d'aller partout. Et moi je suis dans plusieurs réseaux et on dîne aussi, enfin, on est dans un réseau qui s'appelle Futur Composé. On essaye aussi d'avoir une action politique et de faire des débats politiques et d'être dans les grands lieux comme Avignon, Aix, etc. Et c'est vrai que chaque fois qu'on organise une table ronde, bah d'abord on a tout un plateau d'hommes, et après, alors donc on dit non, ça va pas. Et là, il y a vraiment tout un travail à faire pour introduire des femmes à chaque étape, mais pas aussi ne faire que des plateaux féminins. Moi, c'est quelque chose qui me paraît très important pour l'avenir et qui m'intéresse et sur lequel j'aimerais bien m'associer. Voilà.
Alors, je voulais juste éclairer, donner la raison pour laquelle effectivement c'est un plateau que féminin ce soir, c'est simplement nous sommes. En fait, les seuls adhérents d'HF dans le secteur musique. Donc, s'il y avait eu effectivement un adhérent homme à HF, voilà. Donc là, ce soir, c'est vraiment un plateau HF. Mais par contre, les musiciens présents, hommes présents dans la salle, sont les bienvenus pour rejoindre HF. Hein. Il n'y a aucun souci. Et venir endosser la cause.
Ils étaient invités, alors. Bonsoir, moi je suis Claire Renard, je suis compositrice et je voudrais un peu enchaîner sur ce qu'a dit Laure Marcel-Berlioz, telle qu'elle a constaté que dans son catalogue il y avait 10% de compositrices par rapport aux 1100 compositeurs. On n'est pas nombreuses, mais le problème aussi c'est que les programmateurs se cooptent entre eux et ne cooptent effectivement que des hommes la plupart du temps. Moi, j'ai reçu encore cette année les programmes de saison des festivals, des centres qui programment de la musique contemporaine régulièrement. Eh bien, il n'y a même pas 1% de femmes qui sont programmées. C'est même pas ça. C'est rien. C'est vraiment rien. Et quand on est programmé une fois tous les... Je sais pas quoi. Alors, on continue. Hein, on ne se décourage pas. Mais je pense qu'il n'y a pas seulement... Il faut aussi parler du fait d'être programmé et que les lieux de programmation comme les festivals de musique contemporaine ne sont absolument pas conscients de la façon dont ils sélectionnent les compositeurs. Et je pense qu'il y a le même phénomène que les hommes se cooptent entre eux.
Et moi je dirais qu'il y a l'effet pervers aussi que plus on joue et mieux on joue. Donc c'est-à-dire qu'on invoque souvent la raison, notamment dans le jazz, qu'il n'y a pas assez de bonnes musiciennes de haut niveau. Mais le fait est que plus on joue, et mieux on joue. Donc c'est un espèce de serpent qui se mord la queue. Quoi.
Si je peux juste rebondir par rapport à cette question de la mixité et de l'importance de la mixité, etc. Enfin, moi, personnellement,
enfin, je ne sais pas si ça faisait référence à ce dont je parlais, au mouvement dont je parlais, mais je pense que, en fait, en tout cas, ce qui m'intéresse en tant que musicienne, c'est la variété des réponses qu'on peut apporter à cette situation. C'est sûr que ça pose question, la question de se mobiliser par la non-mixité et les festivals musique, femmes et musique, etc., avec leur cortège de récupération aussi, parce qu'il y a quand même un moment, cette question-là, est-ce que c'est bien de faire un festival avec que des femmes? Est-ce que ça rend vraiment service aux femmes? Enfin, c'est une vraie question, je suis d'accord. Après, personnellement, je pense que ça fait partie quand même de réponses qui peuvent être valides, surtout, ça dépend aussi de la manière dont c'est fait. Voilà. Et personnellement, je pense que c'est quelque chose, en tout cas, qui est important pour moi dans la gamme de réponses qui peuvent être apportées à la situation qui, quand même, se pose en termes très, très concrets pour les artistes et pour les créatrices, quoi. Donc c'est vrai que faire des choses dans la mixité, c'est idéal. Après, toute opportunité, si elle n'est pas prise, si elle n'est pas une récupération horrible avec, je sais pas, les femmes font de la musique avec que du rose partout. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça veut dire que les femmes jouent et les musiciennes font ce qu'elles veulent faire, quoi.
Moi, je la trouve intéressante, cette idée d'inéquité, mais moi, j'irais presque plus loin que ça, en fait. Je parlerais presque d'équité. Et je trouve que, effectivement, c'est important aussi de constater dans le secteur de la musique au sens large à quel point les hommes et les femmes ont besoin des uns et des autres pour se nourrir et travailler ensemble. Et qu'effectivement, qu'un homme ait envie d'assumer des fonctions plus ou moins féminines ou qu'une femme ait envie d'assumer plus ou moins des fonctions masculines me pose moins aucun problème à partir du moment où il a la possibilité de le faire. Et cette complémentarité-là, elle doit aussi mener à un tout bénéfique. Donc oui, on peut aussi parler d'équité et comment les deux ensemble travaillent librement.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la
non-mixité quand même très 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 prononcée, surtout je pense aux musiques actuelles en fait, enfin, je sais pas. Quand on regarde les journaux spécialisés, etc., c'est vrai qu'il y a quand même une forte, forte représentation de tous ces groupes, justement non mixtes. Enfin, je sais pas, les Beatles ont quand même servi de modèle, par exemple, à plein de formations, etc. Enfin, ça choque pas, par exemple. Voilà, après, on va dans un. Enfin, je veux dire, je trouve que voilà, la non-mixité masculine choque trop peu. Voilà. C'est ça.
Ma situation. Dans le secteur sud.
Je crois qu'il y a une femme.
J'ai peut-être pas besoin de micro. Hein. Je me disais, tout ce genre d'action, comme aujourd'hui
mettre la pression sur ces femmes qui sont en poste décisionnaire, parce que je me dis, des fois je me dis que les signatures continuent toutes dans un même sens, c'est-à-dire la femme fragile, séductrice, vulnérable, elles doivent pas être très conscientisées, et que s'il y avait un... Parce que si demain, il y avait une autre représentation de la femme dans la chanson, qu'elle soit celle qui chante, qui l'accompagne, et ben tous les chiffres que vous avez soulevés tout à l'heure dans l'info, combien de musiciennes, celles qui sont devant, celles qui sont à la fond, tout ça, ben, bougeraient forcément. Et que tant que, aussi, en représentation féminine dans l'art, j'ai rien contre les poupées, tout ça, c'est super, mais on ne peut pas être que enfermé dans le rôle de la bousseuse, poupée, séductrice et fragile. Et que je me dis, et vu que c'est l'art le plus populaire, la musique quand même, et ben que s'il y avait des pressions qui étaient faites dans ce sens-là, voilà, pour que aussi d'autres projets musicaux féminins existent, et ben ça bougerait forcément les lignes pour tout le monde, y compris celles qui dirigent, parce qu'il y a un moment aussi, voilà, de programmer des femmes auteurs qui ont un discours, je dis pas forcément, pour moi, discours, ça ne veut pas forcément dire être social engagé, hein. Pour moi, Barbara était une grande auteure. Mais voilà, il y a une présence, il y a un art, il y a une valeur. Et bien, ça jouerait aussi sur tout le monde, quoi. Voilà. Donc, en gros, ce que je voulais dire, c'est de assembler tous les organismes qui, comme ça, luttent pour nos droits et mettre la pression aux quelques qui sont en poste. Et juste, je finis. Je rebondis sur vous, madame, qui avait peur de... Oui, les choses que de femmes, blablabla, blablabla. C'est marrant parce que je cumule, hein, de femmes, jeunes, noires, et que souvent, dans mes autres combats, qui sont la place des Noirs en France, dans les groupes de réflexion que je fréquente, souvent il y a aussi ce truc de « oui, mais non, non. » Et que moi, je suis assez convaincue du forum bias, quoi, et qu'il y a un moment, c'est important aussi de porter quelque chose, nous, sans exclure, bien sûr, si les gens veulent, les hommes veulent nous rejoindre, c'est super, hein, on les aime beaucoup, mais que l'émulation parte d'une chose spécifiquement féminine, je trouve ça, et j'ai beaucoup aimé votre exemple des Beatles. C'est vrai, quand un groupe, il n'y a que des hommes, ça pose un problème à personne, et que, voilà.
Non seulement ça pose un problème à personne, c'est que, quelque part, on est aveugle à cette non-mixité qu'on nous propose quand même tout le temps. Enfin, je veux dire, moi, il y a un magazine, tous les mois, je rachète ce magazine qui s'appelle Vibration, parce que j'adore, et que voilà, je trouve que c'est un travail très intéressant, éditorial, sur les musiques actuelles du monde, etc. Et tous les mois, ça m'énerve aussi, parce que, voilà, quelle couverture on a cette édition, je sais pas, c'est la surprise. Une belle non-mixité, non ? Ah ouais, c'est super. Bon, je rigole, bien sûr, mais en fait, j'ai fait un vrai travail sur ce magazine qui, par ailleurs, est un magazine de qualité sur la musique. Et en fait, sur 2 ans, il y a 2 couvertures de femmes qui sont... Enfin, où il y a une femme en couverture, avec accompagnée d'un homme, quand même. Voilà. Enfin, c'est QFD, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est juste...
Moi, je voudrais ajouter... Enfin, bon, ça part directement prêt à ça, mais... Moi, en tant qu'enseignante, je pense qu'il y a un vrai gâchis de talent. C'est-à-dire qu'on a des gamines dans les écoles qui ont un talent fou, qui sont des virtuoses, qui pourraient devenir des musiciennes exceptionnelles, d'exception. Et à un moment donné, il se passe ce qui se passe, mais à un moment donné, c'est l'hémorragie, et on perd tous ces talents. Et pourquoi ? Et moi, je trouve qu'on a une responsabilité, nous, notre génération a une responsabilité, c'est-à-dire quelle possibilité on donne à ces petites filles, à la prochaine génération, de devenir des musiciennes de talent. Et moi, ça me rend malade de voir toutes ces gamines qui sont, à un moment donné, exclues de la musique alors qu'elles avaient, elles pouvaient prétendre à des vraies carrières internationales. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait pour que, aussi dans l'enseignement, on accompagne ces jeunes filles, on accompagne ces petites, ces talentueuses musiciennes vers une carrière professionnelle. Qu'est-ce que l'État met en place pour ça?
Justement, quels moyens avons-nous pour réglementairement imposer la parité? Moi, je ne suis pas monsieur, je suis auteur et j'ai connu l'existence de HF en écoutant l'émission sur le théâtre début septembre sur la parité en question dans le théâtre. C'est exactement ce que Madame Justice raconte, c'est-à-dire que les femmes ne sont pas programmées. D'ailleurs, la barbe a filmé la séance de programmation de l'Odéon et il y avait 14 metteurs en scène hommes et 14 pièces d'hommes. Et dans cette émission, Geneviève Fraisse disait, mais la parité ne pousse pas comme l'homme. Je vous trouve d'une douceur depuis le début. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La parité, on va l'imposer par les quotas. Et Geneviève Fraisse disait, la parité ne pousse pas comme l'herbe verte, c'est pas vrai. Il n'y a que la contrainte. Voilà. Donc moi, j'écris des romans, mais là, je me suis mis à l'écrire une pièce de théâtre, et depuis un an, je connais ma douleur. Donc j'ai compris le truc au bout, quoi. Donc, voilà, ça arrête. Donc, à part les quotas, je ne vois pas les quotas pour. Et puis alors, ce que disait madame est vrai aussi pour les femmes qui ont des directions. Il faut dire aussi que les femmes qui sont la majorité silencieuse depuis des siècles, il y en a une grosse partie qui est très conservatrice et qu'elles sont là pour aussi proroger les prérogatives de ces messieurs. Quand on est auteur, par exemple, une attachée de presse ne va pas s'occuper de vous parce qu'elle passe sa vie à chercher quel auteur homme elle va épouser. Et donc vous pouvez toujours croiser. C'est la vérité. C'est la vérité, je vous souviens de tableau. Donc, le fait qu'il y ait des directrices femmes, comme dit, elles peuvent proroger très bien la domination masculine. Elles sont très fortes pour ça, certaines d'entre elles. Donc ça ne suffit pas, il faut vraiment les quotas de programmation des auteurs femmes, les quotas dans les orchestres, c'est pas difficile à imposer réglementairement, parce qu'on nous vole notre destin là, donc c'est très simple, en tout cas pour les organes de presse privée c'est différent, on n'a pas tellement de moyens de position, mais il y a le boycott, on pourrait faire des trucs de boycott, ne plus aller voir vous allez dans les théâtres, il n'y a que des femmes dans la salle du théâtre.
60%.
Ouais, voilà. Donc, il faut qu'on fasse des classes actions comme ça, des boycotts, et puis imposer des quotas. Réglementairement, on a le droit pour nous, parce que l'argent, les impôts, etc. Enfin bon, ça doit être possible.
Alors, je voudrais juste signaler que la SACD, en collaboration avec HF, a publié cette petite brochure que vous avez à disposition à l'entrée, qui s'appelle « Ce sont les femmes », à l'initiative de Laurence Équipé, et donc qui détaille toutes les programmations de théâtre subventionné, et donc les programmations de femmes dans chacun des théâtres. Et vous pourrez voir, donc il y a le nombre, à côté du théâtre, il y a le nombre de programmations, enfin de pièces, et puis les auteurs ou les metteuses en scène, etc., qui sont programmées. Donc c'est déjà une initiative intéressante. Comment aussi, c'est un petit peu de la discrimination positive, effectivement faire plébisciter les femmes et les lieux qui programment des femmes, effectivement. D'autant que les impôts...
Je vois pas d'autre chose.
Je crois qu'il y avait une intervention par là.
Bonsoir. Ça passe par l'Assemblée, par exemple, les décrets,
quelque chose comme ça. On y travaille.
Moi, je m'appelle Alice, je suis présidente d'une association qui s'appelle WMN, et ça veut dire Women Multimedia Network. Et moi, j'ai fait mon propre travail sur l'équité dans le domaine de la musique électro. Je suis DJ et je suis attirée aussi par les line-up exclusivement masculins. Il y a quelques filles, femmes qui sont actuellement DJ qui réussissent bien. Souvent elles sont, comme on a dit, elles sont cooptées. Elles ont une espèce de parrain, en fait. Elles ont un DJ mec très très connu qui va dire « Ah voilà, il y a une petite, là, elle est bien. » Bref. Ou alors elle est, c'est la femme, la copine d'un DJ qui est connu. Et moi, le projet est très très récent et souvent je vacille un petit peu parce que je me dis, mais je, en termes de légitimité, quand je parle du projet autour de moi, j'ai l'impression que c'est, je sais pas, on me prend souvent pour une espèce de féministe, et on pourrait me dire, mais non, il y a beaucoup de femmes dans la musique électro, alors que moi, les line-up, je les regarde...
Moi, si je peux, juste très rapidement, la question de la presse spécialisée, c'est une question qui est extrêmement importante pour... et des médias, en fait, en général. C'est une question qui est extrêmement importante, en particulier sur la question de la légitimation. Donc... Je pense qu'au contraire, il faut absolument que ça change, parce que la représentation, elle se fait aussi et surtout par ça, et la légitimation, et la manière dont on parle du travail des femmes, c'est ça, en fait. Donc, c'est pour ça que je tiens à le suivre.
Bien sûr.
Bien sûr.
Si vous tapez dans Google et que vous enlevez le filtre qui protège les images, etc., vous tapez femme DJ women, vous allez avoir plein de DJ au sein nu en fait. Voilà. Pour avoir une idée un petit peu de la représentation dans l'imaginaire collectif, il y a beaucoup de il y a cet imaginaire qui est là. On en a parlé aussi pour dans le monde du travail, c'est-à-dire que si la musicienne est disponible, c'est bien. Si elle est mariée,
Et on peut, d'ailleurs, on peut s'interroger aussi sur l'accès des femmes aux nouvelles technologies, donc à la musique assistée par ordinateur, et comment actuellement il y a quand même un fossé qui est en train de se creuser entre les musiciens-interprètes, instrumentistes. Et puis les musiques électroniques qui quand même produisent énormément aujourd'hui sont aussi récoltent aussi des mannes d'argent assez importants. C'est peut-être même là que l'argent se fait le plus. Et comment finalement aujourd'hui on voit qu'il y a de plus en plus de femmes qui accèdent aux instruments, qui pratiquent un instrument. Au même moment, c'est une profession qui se dévalorise en termes de rémunération. Donc ça, il y aurait aussi effectivement quelque chose à dénoncer dans l'accès aux nouvelles technologies, par exemple dans les écoles, dans qui est inscrit dans les classes de MAO, est-ce qu'il y a des filles dans les classes de MAO, alors qu'aujourd'hui on ne peut pas être musicien, à mon avis, au 21e siècle, sans un apprentissage de la musique par ordinateur. C'est le passage obligé. Donc, et comment elles en sont exclues aujourd'hui, ça c'est intéressant.
Est-ce que c'est des gros cachets, les DJ?
Ça dépend.
C'est surtout la production, c'est pas tant les DJ, c'est la production. Mais les DJ sont des producteurs aussi.
Certains ont des gros cachets, bien sûr. Mais je sais pas, un David Guetta, par exemple, je sais pas, je sais pas, à chaque prestation, il doit gagner. J'ai aucune information, mais. Parce 1000 euros pour une intervention un soir.
Les DJ femmes n'ont évidemment pas les mêmes.
Ça commence un petit peu. Il y a quelques femmes qui aujourd'hui tournent beaucoup. Mais les exemples qui sont probants, ce sont soit des femmes qui sont femmes de Tibet ou de Titanie ou cooptées par un marin. Donc. Il y a ce problème-là aussi. La musique électro, c'est quand même... Il y a un message un peu anti-réac, anti... et finalement, on retrouve exactement les mêmes travers que dans la musique classique. Donc il y a de grosses lacunes. Et il y a de grosses lacunes dans l'équité. Et moi, c'est vrai que je préfère ce mot aussi, de parler d'équité. Moi, c'est ce que je tends à faire, c'est-à-dire proposer des événements avec autant de filles que de garçons, ou peut-être un peu plus de filles. Mais c'est vrai que je me confronte tous les jours à cette question de la légitimité sur... Parce que c'est vrai qu'on ne se pose pas la question quand on a un line-up exclusivement masculin, on ne se pose pas la question.
de cette non-équité, non-mixité.
Oui, bonsoir. Je suis Mette Boisdin, je suis présidente de HF. Je suis arrivée un peu en retard, je suis ravie qu'il y ait cette réunion ce soir sur la musique, pour nos plurales, d'une certaine manière pour ce qui est du champ musical. Ce que je voulais juste dire, c'est que, en fait, les milieux professionnels sont des petits milieux, et que donc, forcément, à HF, on s'est bien rendu compte que ce qui était très important, c'était de faire nombre. C'est-à-dire que, par exemple, on a décidé de se constituer en fédération au niveau national, pour ce qui était... On est parti d'abord du spectacle vivant, et puis petit à petit, voilà, on enfle à la musique et tout ça. On est bien conscient que quand on parle individuellement d'un problème, on nous renvoie « Oui, mais toi, pourquoi tu parles de ça, toi, personnellement ?» Puis c'est risqué pour une artiste de prendre la parole sur cette chose-là. Quand vous disiez « Oui, je passe pour une féministe, bon, est-ce que j'ai envie ou pas de passer pour une féministe ?» c'est très intime, très personnel. Il n'empêche qu'il y a un problème, effectivement, d'injustice, d'inégalité, flagrant, et que cette parole-là doit être portée par le grand nombre, d'autant plus qu'il faut que les artistes puissent se protéger. Donc moi j'aurais tendance à dire deux choses, c'est-à-dire qu'il y a un pan qui est le pan légal, et effectivement on travaille à ça dans cette association, et je pense que on va au ministère, et on dit voilà, l'argent public, où va-t-il? Est-ce qu'il revient aux femmes ou jamais? Et le champ législatif est en train de changer, il y a la loi Sauvadet, ça bouge énormément, et je pense qu'il est absolument temps d'insister dans le cadre civil, je ne sais pas comment dire, sur ces questions-là, c'est-à-dire qu'on a eu la parité au gouvernement, les choses sont dans les tuyaux, il faut absolument montrer qu'en face, on n'est pas indifférente à cette question-là. Il faut pousser de ce côté-là, et ça, en adhérant, c'est une des choses qui est vraiment importante, c'est-à-dire qu'on va faire de plus en plus de nombre. Quand on va au ministère, on dit « Nous sommes une fédération qui rassemble à peu près un millier d'adhérents et d'adhérentes, dont des structures, par exemple. » On n'a pas que des personnes comme adhérents. Donc, vos structures peuvent adhérer, ça c'est vraiment important. Et du coup, notre parole est légitimée, d'une certaine manière, personnellement, on commence à être protégé. L'autre chose, c'est effectivement tout le travail, c'est un autre temps à faire sur les mentalités, sur le plafond de verre, sur se sentir légitime, sur qu'est-ce que je fais chez moi, etc. Et je pense que justement la Barbe travaille beaucoup là-dessus, c'est-à-dire avec son humour et avec sa présence, c'est-à-dire que c'est dans des opérations un peu médiatiques, un peu fortes comme ça, pourquoi pas justement des plateaux entièrement féminins qui tout à coup bah, font parler, ah ben ce sont que des femmes et ça veut dire quoi quand c'est que des hommes, enfin toutes ces choses-là qui font parler d'elles et qui donnent un exemple dans le sens en quoi ça nous fait réfléchir. Qu'est-ce que ça pose comme question et alors pour le coup, qu'est-ce que ça pose c'est comme question pour nous et pour les générations futures. Et je trouve, Natacha, que la question des jeunes musiciennes, des jeunes artistes, de l'enseignement, enfin, voilà, de qu'est-ce qu'il y a comme compositrice dans les concours, qu'est-ce qu'il y a comme, qu'est-ce qu'on étudie comme musique, qu'est-ce qu'on étudie comme compositrice et tout ça, c'est vraiment très important. Donc il y a un peu ces deux aspects. Et puis la musique, alors ça, nous, on vient du spectacle vivant, enfin pas tout le monde, mais je pense que le spectacle vivant n'a pas cet aspect industriel qu'il y a en musique. Et la particularité de l'industrie, bon, qui est certes en dérive à l'heure actuelle, mais n'empêche le potentiel tout à coup de faire de l'argent dans ce milieu-là, ça c'est une particularité et je pense qu'il faudra la travailler. C'est-à-dire effectivement ce que vous disiez sur faire pression sur des labels, qu'est-ce que c'est que ça? Pour que nous, quand on fait pression sur un théâtre subventionné, bon, ça ne va pas très loin. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose aussi, une petite clé à travailler et qui est une des particularités. Qu'est-ce que tout à coup fait d'une musicienne une star internationale et moi, je me pose un peu cette question ce soir.
Mais oui, mais c'est important parce que la musique, effectivement, on est à cheval entre l'industrie musicale, donc les labels et la musique enregistrée, et des musiciens sur scène. Et
des musiciens sur scène, c'est une.
Voilà, c'est important pour moi. Et puis, moi, ce qui me plaît aussi dans cette table ronde, c'est le fait que. Enfin, moi, je pense que c'est important que les artistes, qui sont devant soient des artistes, mais c'est aussi important effectivement que ceux qui sont derrière, que ce soit, on ne voit pas sur scène, les programmatrices, les directrices, les techniciennes, les administratrices, etc., voilà, soient aussi, fassent partie de la réflexion. C'est ce qui me plaisait dans ce qui était présenté, même si le titre était un peu là, mais c'est qu'on ne parlait pas que des artistes, on parlait aussi de tout ce qui tourne autour des artistes et qui permet aussi à ces personnes d'être présentes sur scène.
Bonjour, je m'appelle Yaël Eladad, je suis aussi AHF, je fais partie des membres fondatrices d'AHF Île-de-France, donc moi je suis comédienne, je connais pas très bien le milieu de la musique et je suis effrayée vraiment des chiffres que j'entends là, aujourd'hui, même si je les avais déjà un peu entendus, mais là ça me saute à la figure. Je voudrais juste pour vous donner du courage aussi, pour nous en donner, enfin, vous faire part de cette réflexion qui m'est venue quand cette année on a été à Avignon faire donc plusieurs interventions au sein du festival. Donc c'est vrai, plutôt dans le milieu du théâtre. J'ai été frappée par le fait qu'il y a 2 ans, quand on était venu, on en était à cette question de la légitimité, c'est-à-dire que dans tous les débats, on devait tout le temps justifier pourquoi cette question était importante, pourquoi il fallait la mettre à l'ordre du jour. Et aujourd'hui, 2 ans après, je pense d'une part grâce à ce qui se passe aujourd'hui en France, la parité en politique, enfin le fait que dans l'air du temps, cette question revient dans plein de secteurs de la société, et aussi par ce travail de sensibilisation qu'on a fait, on n'en était plus à ce stade, mais on en était au stade du comment. Comment on agit, comment on fait pour que les choses changent. Et donc, tout ça pour dire que, enfin voilà, moi j'avais milité dans beaucoup de secteurs, d'associations. Je dirais que c'est la première fois qu'en si peu de temps, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui bouge. Et c'est très positif, quoi. Donc, c'est pour vous dire que je pense que si on s'engage vraiment, et surtout, si on s'appuie sur des chiffres, parce que ça, les chiffres, c'est des faits. C'est des choses qui sont incontestables. Et c'est des trucs qui ont marché hein, dans le secteur du théâtre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut nous dire « Ouais, mais bon, c'est parce qu'on fait attention qu'à la qualité, donc on ne fait pas attention au sexe. » Et quand on dit « Bah alors, donc ça veut dire quoi ? Qu'il n'y a que 36 femmes qui ont du talent parmi les 450 musiciens. Il y a un problème. Il y a d'autres femmes qui pourraient postuler. » Enfin, ça fait réfléchir petit à petit. Et c'est intangible, hein, les chiffres. Donc, il faut continuer à aussi faire en sorte qu'on puisse développer des études avec beaucoup de rigueur, je crois, parce qu'il ne faut pas qu'on puisse se rendre compte qu'on s'est trompé ou quoi. Il faut que ce soit rigoureux, il faut que ce soit fait scientifiquement, quoi, avec une vraie méthode. Mais il faut, c'est des vrais arguments, en tout cas. Voilà.
Bonjour, Anne-Marie Viossa, professeure de musique. Avant, j'ai essayé d'être compositrice. Je n'y suis pas arrivée. En fait, je suis pas arrivée à vivre avec la musique. Et je dois dire qu'il y a une chose qui m'a beaucoup choquée au début, c'est que tout de suite, quand on a parlé de la situation des femmes dans l'expression artistique, oui, mais faites gaffe, la mixité. Bon, la mixité, on l'a depuis très longtemps, sauf que ce n'est pas du tout égal. Il y a 90%, 99% des hommes, 1% des femmes. Les femmes commencent à se réveiller, à se bouger, enfin, continuent à lutter, et on me dit attention, il y a des femmes. Là, j'étais un petit peu choquée. Et puis, autre chose, là, depuis un petit moment, j'ai l'impression qu'il y a quand même un combat à mener, ce combat est féministe. Et là, c'est un mot qu'on ne dit pas, c'est un mot, il y a des résistances énormes, il faut faire un combat féministe, qui n'est pas un combat, le patriarcat, le machisme, c'est fini, on n'en veut plus, on ne veut pas le matriarcat, on ne veut pas comment on peut dire pour les femmes, bon, c'est quand même pas de mot, donc non, on veut la parité, on veut faire le génial, non, on n'en veut pas d'ailleurs. On veut faire tomber le plafond, enfin exploser le plafond de verre, on veut l'égalité. Et ben, c'est un combat, on ne va pas nous le donner. Et c'est un combat qui a un seul mot, c'est féministe. Il ne faut pas avoir peur de ce mot. Il faut s'engager ensemble.
Bonsoir, donc Pascal, moi je fais de la musique mais en amateur. Et sinon, je.
suis chargée de mission DLA, donc c'est-à-dire c'est un dispositif, le dispositif local d'accompagnement pour aider les associations à se professionnaliser. Donc je vois beaucoup d'associations dans mon métier et notamment certaines dans le domaine du spectacle vivant. Et je m'étais intéressée à poser cette question de, notamment pour les associations de musique, est-ce qu'il y a plus de filles, plus d'hommes? Et pour toutes les associations, la composition du conseil d'administration, est-ce que c'est des hommes, est-ce que c'est des femmes? Et au final, les dirigeants, plutôt des dirigeants que je rencontre, ils ne voyaient pas où je voulais en venir avec ces questions-là. Et ils me disaient, bah oui, les filles, elles sont plus sur la flûte et puis les hommes sur la batterie. Voilà. Et du coup, j'ai arrêté de poser ces questions parce que je n'avais pas l'impression de faire changer les choses. Et en fait, ça me vient à la question de, est-ce que l'argumentaire, est-ce qu'il faut le baser sur l'injustice de la situation et que montrent les chiffres, ou est-ce qu'il faut faire un argumentaire dans le sens, si on intègre la plus-value d'intégrer des femmes dans une équipe, donc dans un orchestre, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si on se met à la place d'un homme, bon ben, ça a toujours été comme ça, il y a toujours eu des hommes, quel est l'intérêt d'intégrer des femmes? Est-ce que, peut-être, comme vous disiez, il y a des talents cachés qu'on ne voit pas, et il y a des, est-ce qu'il y a des argumentaires autres que l'injustice, même si, ou alors est-ce qu'il faut rester sur le fait qu'il y ait une injustice?
C'est vrai que moi j'ai toujours été étonnée que l'industrie, par exemple, de la lutherie, tous les magasins d'instruments de musique et tout ne s'emparent pas de de ce potentiel d'être consommatrice comme présentent les femmes. Je me dis comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait vraiment la promotion des femmes instrumentistes dans la mesure où ça représente quand même énormément de potentiel consommatrice. Donc ça veut dire qu'il y a même dans une industrie dite libérale, capitaliste, où le principe c'est de faire du profit. En fait, les arrêtés, les normes et les interdits sociaux sont plus forts que l'envie de faire du profit, c'est quand même dingue. Et on voit bien que souvent, toute l'imagerie autour des instruments de musique, la publicité, tout ça dans les brochures professionnelles, ça, c'est que des hommes. Ça commence un petit peu à changer, mais enfin, c'est quand même très rarement des femmes, ou alors elles sont en maillot de bain et tout ça nu. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment, et cette plus-value là, c'est ça, on pourrait dire presque, bon ben si on veut convaincre une ville de mettre plus de femmes sur les plateaux, c'est aussi la plus-value, c'est aussi avoir peut-être plus de femmes aussi dans les salles, plus de femmes plus de petites filles qui vont s'identifier aux musiciennes, donc qui vont fréquenter l'école de musique, donc qui vont acheter des instruments de musique à la boutique locale, des partitions, produire des disques. Enfin, voilà, donc même dans une optique comme ça de plus-value économique, en fait, ça pourrait être effectivement un argument, mais apparemment, pour l'instant, ça n'est pas encore un.
Moi, je voulais rebondir, Blandine Pellissier, donc membre fondatrice d'HF Île-de-France, je voulais rebondir sur le terme féministe. Je suis entièrement d'accord avec vous, madame. Nous sommes une association féministe et nous le revendiquons. Et nous sommes d'ailleurs en relation étroite avec le collectif La Barbe, à qui nous avons donné la cible de l'Odéon. Donc si vous avez des cibles dans la musique, n'hésitez pas, nous ferons le nécessaire. Nous faisons partie également de la CLÉ, qui est la coordination française du lobby européen des femmes. Nous sommes en relation aussi avec OLF, Oser le féminisme. Oui, nous sommes une association féministe, nous le clamons haut et fort, nous n'en avons pas honte. Et le féminisme, ce n'est rien qu'autre chose que de réclamer l'égalité pour les hommes et les femmes. Donc, ce n'est pas un grand mot, absolument pas.
Oui, bonjour, Myrti Picot. Donc, moi, je suis actuellement en thèse en sociologie, je travaille sur l'espace musical parisien. Je me confronte aussi à travers des chiffres et d'autres types de choses à cette inégalité entre hommes et femmes, à la fois dans la musique classique, dans la musique jazz, dans les musiques contemporaines, dans l'électro, enfin partout. Et en fait, il y avait plusieurs choses sur lesquelles je voulais rebondir. Donc déjà, je suis d'accord avec ce terme de féminisme. C'est vrai que c'est important, surtout dans une nouvelle génération où le féminisme a été ringardisé, où on a l'impression qu'on a avancé, c'est bon, c'est pas la peine d'être hystérique, on a avancé.
avancer sur les choses, et je pense que la ringardisation de certains discours, c'est aussi un processus social qui sert à disqualifier ces discours, donc c'est pas cool, mais c'est pas cool, ça a une signification derrière, donc je pense qu'il faut dire ça. Et aussi parce que donc, vous avez dit tout à l'heure qu'on n'avait pas trop de chiffres plus anciens sur la musique, mais en fait, il y a des études qui ont été faites, par exemple, par quelqu'un qui s'appelle Christophe Charles, qui travaille sur le théâtre, et avant, en fait, beaucoup de musiciens étaient répertoriés sous le théâtre, et c'est pareil, en 1900, c'est pareil, il n'y a que des chanteuses, et il n'y a quasiment pas de musiciennes, enfin, ça fait des années que ça n'a pas évolué, ça fait au moins 100 ans, alors qu'on a eu un combat qui a été fait, et je pense que la femme ne doit pas se présenter comme il y a un avantage à intégrer des femmes dans la musique. Enfin, c'est comme là, la controverse qu'il y a eu sur Cannes. Je suis désolée, mais ce qu'il y a eu quand même pendant cette controverse, donc on a dit qu'il n'y a pas de femmes qui ont été sélectionnées par le jury. La réponse a été oui, mais il y a des femmes dans le jury. Donc si elles ne sélectionnent pas, sauf que ce n'est pas les femmes du jury qui sélectionnent les œuvres, la sélection est faite avant, donc ça n'a aucun rapport. C'est quand même les médias qui ont relayé ça largement. Et les gens, et moi aussi dans mon entourage, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de femmes plus vieilles, ont répondu oui, mais en même temps, s'il n'y a pas de femmes qui font des bons films, voilà, c'est ça. Et là, c'est la même chose, on peut nous rétorquer ça. Donc, je pense qu'il faut aussi dire clairement qu'il y a des processus sociaux qui contribuent à ces inégalités, que ce n'est pas juste parce que les femmes, c'est très difficile, vous savez, de jouer de la batterie, c'est hyper physique. On entend ça tout le temps. Donc,
donc Michel Cochet, HF Île-de-France. Je voulais répondre à vous, madame, justement, qui m'avait passé le micro. Par rapport aux moyens d'action, notamment ce qui est matière de quota, parce qu'on a attaqué direct là-dessus, dans les instances ministérielles, on a touché un point extrêmement sensible qui les a complètement remplis d'effroi, puisqu'on s'est vu immédiatement opposer la liberté sacro-sainte artistique de tout programmateur et directeur de lieu d'élaborer, de construire librement ces programmations. Après, évidemment, à nous de contre-attaquer pour dire que ces programmations ne sont pas si libres que ça, qu'il y a plein de contraintes par ailleurs qui motivent leur travail. Mais tout ça pour dire que cette histoire de parité n'est jouable qu'effectivement sur les terrains réglementés, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, et que sur le domaine purement artistique de la composition et de la population des artistes, la manière dont ils sont rendus visibles, c'est beaucoup plus délicat. Je ne pense pas qu'en l'état actuel, on soit en mesure de pouvoir imposer la mise en place de quotas dans les programmations. Alors après, par quoi faut-il passer? Quand je dis les domaines réglementés, c'est les nominations, c'est les jurys, les commissions, le personnel, disons, administratif, fonctionnalisé par l'État, etc., etc. Après, comment y arriver? Nous, on est en train d'essayer plusieurs voies. Il y en a une qui marche, comme disait Yael tout à l'heure. C'est vrai que c'est très réjouissant, et je vais encore verser une couche de prosélytisme, adhérer à HF, vraiment, parce que plus on est nombreux, plus on constitue un corps, et multiples, multidisciplinaires, en plus effectivement on va être entendu, et c'est une force qui peut faire basculer, disons, cette espèce de graal immatériel, mais qui est très prégnant dans le milieu artistique, qui est le bon goût. Et on se rend compte dans le théâtre et dans le spectacle vivant qu'il commence à y avoir une espèce de shaming qui commence à prendre, qui fait qu'autant il y a 2-3 ans, on pouvait nous répondre, mais sans aucune précaution, qu'on n'avait rien à foutre, que c'est vraiment pas le problème, et qu'il y a des problèmes dans le monde, franchement, qui sont bien plus graves que ça. Donc voilà, à une espèce d'écoute respectueuse, tout d'un coup, pondérer des chiffres, des arguments, oui, effectivement, il y a. Bon, donc pour test et preuve, la mise en place de la saison égalité que nous projetons en 13-14, qui est de fédérer autour d'un groupement réseau de lieux de programmation, disons, toute la question de l'égalité homme-femme. Donc, c'est la proposition à cet ensemble de lieux de travailler sur la question de l'égalité homme-femme et de devenir des bons élèves, d'une certaine manière. Voilà, et c'est en train de prendre beaucoup plus, parce que c'est un milieu de suivisme. Il suffit qu'un théâtre important ou un peu repéré commence à dire oui pour que les autres se disent tiens, machin, fais ci, donc faisons pareil, etc. On vient en réunion, on se rend compte qu'on n'est pas méchant, qu'on ne mord pas, qu'on dit des choses intelligentes. Donc tout d'un coup, le bon goût commence à se déplacer un petit peu dans le territoire de la chose. Et qu'il faut il y a Éric Fassin, à la tribune du débat qu'on a organisé à Avignon, qui a dit une chose très juste. Dans ce monde de rationalité, il y a un coût qu'on oublie toujours, ce qui est le coût psychique. C'est-à-dire, à partir du moment où les acteurs et opérateurs de ce métier, évalueront que le coût psychique d'être uniquement dans la masculinité deviendra trop important vis-à-vis du milieu social, du regard extérieur, ils commenceront à réfléchir. Les anglo-saxons, à ce qu'on nous a dit, ils sont parvenus dans la mesure où, actuellement, une assemblée uniquement masculine, une commission, une réunion, quelque chose qui est censé décider, si c'est uniquement masculin, eh bien c'est disqualifié. Et avec des exemples très concrets de recomposition de la réunion en question, ou de la commission, pour arriver quand même, voilà. Donc il faut jouer sur les deux, mais ça, par rapport à la musique, alors je ne sais pas, parce que moi je me posais une question en fait, c'est ça que je voulais demander. On a l'impression, comme ça venant du théâtre, que les figures portant la culture musicale sont bien plus médiatisées, populaires, que, mais peut-être à tort, hein, que le domaine du spectacle vivant. C'est-à-dire qu'une chanteuse à succès ou une figure féminine a bien plus d'impact qu'une actrice de théâtre ou une... sans parler du cinéma qui est encore autre chose. Donc il y a peut-être un stratégie de people d'essayer de fédérer autour. Nous avons un manifeste que nous proposons la signature, d'essayer de faire circuler des documents, des propositions d'engagement, des signatures. On monte aussi au créneau de la presse, on essaie de faire publier des tribunes avec des signatures. Il y a plein d'actions, mais il faut... Voilà.
Oui, en gros, on ne va pas vous cacher que si on vous invite ici, c'est pour essayer de constituer un groupe... autour du monde musical, HF étant majoritairement composé de gens du théâtre. Voilà, donc vraiment, vous êtes invités à monter ce groupe historique de musiciens, musiciennes qui allons œuvrer, nous allons œuvrer ensemble pour l'égalité de la parité. Mais donc voilà, partout, effectivement, on peut très bien imaginer comme HF. L'a impulsé autour du théâtre de créer une saison égalité autour des scènes de musique actuelle ou en particulier dans les SMAC, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être imaginé, mais il va falloir effectivement un petit peu de pédagogie et de forcing et surtout de nombre.
Oui, je pense qu'il va falloir du temps et de la pédagogie, et peut-être que le travail qui s'opère dans le théâtre depuis maintenant quelques années. Je ne suis pas sûre que le secteur des musiques actuelles il soit complètement prêt. Et c'est pour ça que j'entendais tout à l'heure des propos que je trouvais assez durs, hein, interpeller les directrices de structure ou les directeurs de structure. Je trouve qu'il faut d'abord être fin et effectivement diffuser ces chiffres, expliquer ce qu'il y a derrière, faire preuve de pédagogie dans un premier temps, et ensuite effectivement faire grossir les rangs des gens qui réfléchissent à ce sujet-là, qu'on pourra peut-être éventuellement... faire rallier pour ensuite mettre en place des saisons. Alors moi, personnellement, je travaille sur ces questions-là depuis quelques années, donc j'y suis carrément favorable. Mais voilà, on est dans un secteur qui est extrêmement masculin, avec des gens qui sont en poste depuis très longtemps. Si on les prend frontalement, on est sûr de pas absolument pas arriver à nos fins. Donc, moi j'étais adhérente d'HF Nord-Pas-de-Calais, j'ai pas encore adhéré à HF Île-de-France, mais c'est sur la voie. Et j'étais extrêmement surprise en tant qu'adhérente à HF Nord-Pas-de-Calais lorsque j'ai fait circuler le manifeste auprès des directeurs des réseaux régionaux musique actuelle d'avoir aucun retour. Donc il y a un vrai travail de pédagogie. On a mis en place une session de travail un peu comme celle de ce soir en Nord-Pas-de-Calais. Aucun homme n'est venu. Donc c'est vraiment un travail de fourmi. Certainement que l'idée d'interpeller les artistes hein, qui sont des figures emblématiques, mais qui sont aussi des arbres qui cachent la forêt, comme on a pu l'écrire. Effectivement, on s'imagine tous des figures assez populaires qu'on voit dans les médias, et peut-être les associer à cette réflexion-là et voir effectivement à quel point elles peuvent être aussi peut-être porte-drapeau de ces valeurs qu'en plus elles partagent beaucoup, parce que cette souffrance, elle est complètement partagée par l'ensemble des musiciennes, y compris celles qui sont en haut de l'affiche. Parce que celles qui ont réussi à percer et arriver là où elles en sont aujourd'hui, c'est souvent souvent les, alors pas forcément les meilleures artistiquement tout le temps, mais en tout cas des filles qui ont fait preuve d'une, de beaucoup de ténérité.
Génial.
Ouais.
Et juste pour te demander, il faut m'interrompre, mais, non, j'en ai, c'était pas à l'arrivée, mais c'est maintenant au départ. Il y a une table où il y a des feuilles pour pouvoir mettre vos coordonnées, votre adresse email et éventuellement signer aussi, poser votre signature pour le manifeste qui sont montrés.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions ?
C'est simplement quelque chose qui m'est venu à l'esprit quand, quand madame a dit que c'est un peu douloureux, il y a un point douloureux quand vous avez parlé, c'est que vous avez dit j'ai été compositrice mais j'ai arrêté parce que je ne gagnais pas ma vie. Alors, et là c'est un problème de la psyché féminine, si tous les hommes se disaient ça, il n'y aurait pas Gérard de Nerval, il n'y aurait pas Rimbaud, il n'y aurait pas Baudelaire. Il faut se, là c'est un point très de confiance en soi qui est très très important. Parce que de décider d'être auteur ou créateur, évidemment qu'on fait un choix à un moment donné, à 15 ans, à 20 ans, de mettre en péril matériel toute sa destinée. Et ça, les femmes ne se le permettent pas, parce qu'elles ont toujours été utiles, elles doivent être utiles à leur famille, à leurs enfants, tous les jours, etc. Et donc là, c'est pas de l'extérieur que ça vient, je pense que c'est un travail sur soi-même qui est très très important, parce que Van Gogh n'a jamais gagné sa vie. Et c'est évident que c'est être ailleurs là, dans nos sociétés humaines que là où nous sommes actuellement pour les femmes.
Donc, écoutez, je crois qu'on va clore cette riche et fructueuse rencontre. On va vous inviter également à partager avec nous un buffet. Donc, et puis à continuer la discussion de manière informelle entre nous. Et puis, évidemment, n'hésitez pas à venir nous voir pour adhérer ou pour d'autres informations. Enfin, on reste là à votre disposition.
Si je peux me permettre, je voulais ajouter quelque chose. Je suis membre d'HF de France, mais pour dire qu'il y a beaucoup de bastions à faire tomber. Alors, on a parlé du spectacle vivant, de la musique. Moi, je suis plus proche de l'audiovisuel et je peux témoigner de quelque chose qui s'est passé aujourd'hui puisque j'ai participé à une journée qui était organisée par la SCAM dont l'intitulé était, je le dis précisément, « L'audiovisuel de demain se pense aujourd'hui ». Eh bien, je peux vous dire qu'il se pense au masculin puisqu'il y avait 3 tables rondes et à ces tables rondes, il y avait 23 hommes et 3 femmes. D'ailleurs, la barbe est intervenue. Celui qui animait la table ronde a présenté nos amis de la barbe, n'est-ce pas ? Allez-y, faites votre numéro et puis au revoir. Et la quatrième femme qui a parlé, puisqu'il y en a une quatrième qui n'était pas prévue, donc elle a fait remonter la statistique, c'était Aurélie Filippetti qui est intervenue à la fin de la journée. Mais l'audiovisuel aussi, il y a du boulot et on s'y attaque aussi, c'est d'autres problèmes, mais pour dire que voilà, plus on est nombreux et mieux c'est, et dans tous les domaines il va falloir faire tomber tous les plafonds de verre et Dieu sait qu'il y en a beaucoup.